Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. Opaque du Rhône, plan de sobriété électrique. Joint par téléphone Xavier Englebert, directeur général de l'Opaque du Rhône. 30 millions d'amis, la chasse en France, entre mensonges et dérives. Avec nous Jean-Philippe Noël. Et enfin, à Glézé, l'artiste Jean-Philippe Aubanel expose au hangar 717 Calade, le journal. La sobriété énergétique. Depuis quelques semaines, ces termes sont sur toutes les lèvres. Le gouvernement qui en appelle à réaliser au moins 10% d'économies sur l'énergie. Une demande à l'heure où le pays fait face à une véritable crise liée au manque d'approvisionnement et à l'inflation. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure, a insisté le chef de l'État. Sans attendre les préconisations, plusieurs structures privées et collectives ont décidé de prendre le problème à bras le corps et d'acter plusieurs mesures pour réaliser des économies d'énergie, ce qui n'est pas au goût de tous. Depuis lundi, une trentaine de piscines en France ont décidé de fermer leurs portes. D'autres de fermer ses musées ou encore sa patinoire. Et bien d'autres villes ont fait le choix d'éteindre l'éclairage public la nuit. Dès l'annonce de ces fermetures, des organismes sont montés au créneau, au nom de la défense du service public et bien sûr de ses salariés. Les Français sont-ils prêts à rentrer collectivement dans une logique de sobriété comme on leur a demandé? Au quotidien, les discussions sont serrées. Je lui ai bien dit que les bains quotidiens, les petites lampes allumées partout dans le salon pour créer une atmosphère tamisée, ça n'allait plus être possible. Et voilà le grand retour du romantisme de la bougie. Vérifiez qu'il vous en reste encore quelques-unes. Et un petit conseil, assurez-vous que la bougie est allumée avant d'éteindre l'allumette. Opaque du Rhône, plan de sobriété électrique. Envolée du coût de l'électricité, l'Opaque du Rhône met en place un plan de sobriété électrique sur l'ensemble de son parc afin de limiter l'impact des augmentations sur les charges communes de ses locataires. Joint par téléphone Xavier Englebert, directeur général de l'Opaque du Rhône. On l'écoute.
Eh bien, il s'agit de faire en sorte que les charges communes d'électricité des locataires de l'Opaque du Rhône soient réduites au maximum. Il s'agit bien, et j'insiste sur ce point, des charges communes. Hein, chacun des locataires paye sa propre électricité à usage personnel, bien entendu, mais il y a des communs et des locaux collectifs dans l'ensemble des résidences, et il s'agit donc de travailler sur ces locaux collectifs. Je donne comme exemple les couloirs, les halls d'entrée, y compris d'ailleurs certains extérieurs. Afin de réduire les charges d'électricité, des charges communes des locataires de l'Opaque du Rhône, tout d'abord, on va travailler sur le nombre de points d'éclairage. Alors, il y a une réglementation, il s'agit bien entendu de respecter très rigoureusement cette réglementation. Toutefois, très souvent dans les immeubles, on dépasse la réglementation. Donc l'idée là, c'est de réduire le nombre de points d'éclairage dans l'ensemble des locaux, je répète, espace extérieur, parking, hall, cage d'escalier, locaux de stockage pour les poubelles ou les vélos ou les poussettes et les locaux techniques. Ça, c'est le premier effort que nous allons mettre en œuvre. Le deuxième point, ça concerne la durée des minuteries. Donc, très souvent, ces minuteries mais sont allumées un certain temps quand, par exemple, vous descendez dans les locaux poubelles pour vous débarrasser de vos déchets. Et il s'agit de réduire la durée de ces minuteries, et réduire de moitié la durée des minuteries permettra de réduire naturellement la facture sur ces points-là. Enfin, le troisième axe de travail, c'est ce qu'on appelle le relamping, c'est-à-dire prendre dans tous les immeubles les ampoules à incandescence, ampoules habituelles que tout le monde connaît mais qui consomment l'électricité, et les remplacer par des ampoules LED. Alors ça, c'est un travail de longue haleine qui va nous prendre 3 ou 4 mois, qui ne concerne que certaines résidences, parce que les résidences les plus récentes de l'Opaque du Rhône sont déjà en ampoules LED, bien entendu. Mais en tout cas, il s'agit maintenant de basculer définitivement sur le maximum du patrimoine sur cette technologie.
Donc là, il y a une communication, j'imagine, qui est récente vis-à-vis des locatifs et des résidentiels, bien évidemment. Oui. Vous n'avez peut-être pas encore trop les retours. Mais effectivement, lorsque j'entends supprimer ou la lumière sur les parkings,
dans les communs,
etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment un petit peu d'insécurité ?
Alors tout d'abord, bon, nous avons naturellement communiqué tout ceci d'abord aux associations de locataires. Ensuite, nous n'allons pas le faire sans expertise, c'est-à-dire que dans ce plan de sobriété qui commence aujourd'hui, les équipes de l'Opaï du Rhône vont aller dans les résidences. Et naturellement, vont y aller. Ce sera l'occasion aussi de rencontrer les locataires, de pouvoir en discuter avec eux, de pouvoir ajuster les réglages. Et bien entendu, si nous voyons que dans certains points, il y a un enjeu de sécurité, eh bien, on n'ira pas, on fera attention à la manière dont on réduit ou pas d'ailleurs les points d'éclairage.
Afin de limiter l'impact de cette augmentation, l'OPAC du Rhône a décidé d'engager un plan de sobriété énergétique sur l'ensemble de son parc. L'OPAC du Rhône appelle également l'ensemble de ses locataires à s'associer à cette démarche, en adoptant des comportements d'économie sur les charges communes, une mise en application dès à présent pour le bailleur social. La rédaction de 30 millions d'amis dans son numéro de septembre a mené l'enquête sur les dérives d'une pratique obsolète et mensongère de la chasse. La chasse en France entre mensonges et dérives. Une activité de loisir qui fait polémique. Avec nous son auteur, Jean-Philippe Noël, pigiste au magazine, et il est joint par téléphone.
Comme le titre du dossier le montre clairement, c'est-à-dire qu'en fait il y a une communication des chasseurs, mais je dirais plus exactement de la Fédération nationale des chasseurs, qui est tout à fait mensongère. Puisque les chasseurs parlent, se présentent comme les premiers écologistes de France, se présentent comme les grands régulateurs de la faune. Et c'est une communication qui passe plus ou moins bien, peut-être pas parmi nos lecteurs, mais en tout cas parmi la population française. Et c'est vrai que ce sont certaines de ces vérités que nous avons eu envie à 30 millions d'amis de dire et de dévoiler en fait.
Alors quels sont les mensonges ?
Ils sont de plusieurs ordres. Le grand mensonge, c'est de se présenter comme les premiers écologistes de France. Et pour cela, les chasseurs et la fédération a des moyens. Et particulièrement, je ne sais pas si vous aviez vu ou si nos éditeurs l'ont vu, c'est très très beau clip hein, qui présente les chasseurs comme de grands protecteurs de la nature dans leur clip. Il n'y a pas une seule balle qui est tirée, mais il y a des oiseaux qui sont bagués, il y a des oiseaux qui sont relâchés, et on montre les chasseurs comme vraiment participant à la protection de la faune, et c'est comme cela, et c'est sur cette protection qu'ils se présentent, ce qui est évidemment complètement faux. Et la première de leur grande communication qui passe très bien auprès du public, c'est qu'ils sont les grands régulateurs de la faune, c'est-à-dire que toute la faune de France, toutes les espèces, auraient besoin d'être régulées, car elles seraient en trop grand nombre, en fait. Et ce qui est évidemment totalement faux, puisque sur l'ensemble des 90 espèces qui sont chassables en France, seules 3 ont actuellement des effectifs en hausse. Et évidemment, c'est le cas du sanglier qui est de plus en plus présent en France, mais sur l'ensemble du territoire européen, en fait.
Alors ça, c'est pour le côté mensonge, mais vous avez enquêté et il y a également, et vous dénoncez en tous les cas, des dérives.
On dénonce, c'est pas à moi, hein, évidemment, je le fais en donnant la parole à ceux qui dénoncent tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, l'une des grandes dérives, c'est l'élevage. La Fédération, les chasseurs se présentent comme de grands protecteurs et disent qu'en fait, ils favorisent la biodiversité en relâchant chaque année entre 15 à 20 millions, hein, c'est pas petit, 15 à 20 millions de faisans, de canards et de perdrix principalement, qui seraient là pour repeupler en fait nos territoires. On peut se demander si véritablement il s'agissait de repeupler et de repermettre à ces animaux de reconquérir un territoire qui n'est pas d'ailleurs toujours leur territoire d'origine, pourquoi il serait nécessaire d'en relâcher autant. Et pourquoi il est nécessaire d'en relâcher autant ? Parce que les perdrix, les faisans ou les canards qu'ils relâchent, que eux-mêmes d'ailleurs nomment les cocottes, sont des animaux qui ont été élevés de manière totalement industrielle et qui du jour au lendemain sont relâchés dans la nature et qui sont donc totalement incapables de se défendre et souvent même pas de se reproduire. Donc en fait, cette façon de dire qu'ils repeupleraient notre nature est totalement faux. Et si la reproduction de ces espèces fonctionnait, ce ne serait pas la peine d'en relâcher autant chaque année.
Autre question qui suscite bien évidemment la réflexion, c'est celle des accidents. Et vous en parlez également.
C'est à la fois, ça marque une véritable interrogation, surtout de la part de nos concitoyens. C'est-à-dire que les chasseurs ont raison lorsqu'ils disent qu'il y a de moins en moins d'accidents de chasse. C'est vrai que contre ces 20 dernières années, le nombre d'accidents de chasse a diminué. Je dis bien d'accidents, c'est-à-dire d'accidents où il y a des dommages humains. que ce soit la mort ou la blessure de la personne, qu'il s'agisse d'un chasseur ou d'un non-chasseur. Et pourtant, dans le même temps, cette peur du chasseur, cette crainte que l'on a de se promener en forêt et de prendre un coup de fusil, est grandissante chez toutes les personnes qui viennent se balader, qui se baladent à la campagne, qu'il s'agisse de ruraux, comme moi, ou d'urbains qui viennent passer quelques jours ou quelques semaines à la campagne. Donc il y a maintenant effectivement une peur. Alors, cette année, les 6 viennent de tomber. Il y a eu 8 morts, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est légèrement plus que l'année dernière, d'ailleurs. Mais ce qu'on constate aussi, en revanche, c'est que les incidents de chasse sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qu'on appelle les incidents ? Eh bien, c'est tout ce qui ne concerne pas les cas où il y a des dommages corporels, c'est-à-dire les cas où il y a des prises de bec, je dirais du simple prise de bec entre chasseurs et non-chasseurs, qui sont de plus en plus fréquents, mais aussi des incidents comme aussi graves que de voir une balle traverser sa maison ou avoir des coups de fusil dans son jardin, voire sur ses animaux domestiques. Cela, en revanche, ces incidents-là sont en hausse permanente parce qu'il y a actuellement une tension qu'il n'y avait pas avant.
Si à la fin du mois de septembre, la mission sénatoriale sur la sécurisation de la chasse doit rendre ses conclusions, il se murmure déjà que l'essentiel des dérives de ceux qui se présentent comme les premiers écologistes de France ne sera pas remis en cause, déclare Jean-Philippe Noël, auteur du dossier du mois de septembre de 30 millions d'amis, La chasse en France, entre mensonges et dérives. La chasse est ouverte en France dès le mois de septembre jusqu'à fin février. Exposition par la brèche des nuages de l'artiste Jean-Philippe Aubanel au hangar 717 à Glézé du 10 septembre au 9 octobre. L'artiste Jean-Philippe Aubanel nous accueille dans son atelier et nous engageons avec lui une libre expression.
Tout ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est ce que je ne peux pas expliquer. Pour paraphraser des célèbres auteurs des années 70, s'expliquer, c'est s'excuser. Je suis d'avis de dire que le langage trahit la vision. Donc si je vous parle tout de suite de la fin, c'est-à-dire faire preuve d'une éloquence muette, ça ne nous arrange pas beaucoup, puisque avec vous, il faut parler. Alors, je suis à la question, mais... Est-ce qu'il faut savoir pour mieux voir ? Que faut-il savoir pour mieux voir ?
Alors, ça me suscite ce que vous venez de dire d'une interrogation en me disant, est-ce que finalement vous considérez que vos œuvres ne sont pas des achèvements, mais plutôt un commencement ?
Oui. Alors après, les formules, elles sont ce qu'elles sont, mais ça me va. Je dirais qu'elles sont... je fais très souvent des animaux qui ressemblent plutôt à des chevaux. Donc, j'en ai fait dans la dernière exposition et j'appelle ça des inachevaux. Donc effectivement, c'est forcément inachevé, donc c'est forcément frustrant et c'est peut-être pour ça que je continue. Mmh. C'est-à-dire que avant d'avoir terminé, je suis déjà dans l'autre, dans le prochain et c'est pour ça que je suis seul dans l'atelier, moi. Donc, je ne me parle pas à moi-même, mais souvent on me demande, vous auriez pu me demander une question du genre, mais à quoi pensez-vous quand vous peignez tout ça ? Mais écoutez, quand je peins, je pense pas. Je pense après, en étant le propre spectateur de ce que je viens de commettre, mais les mots, je suis très sceptique vis-à-vis des mots. Donc, la magie de la radio, moi je suis issu d'une famille de prolétaires italiens dont les arrière-grands-parents. Vivait à travers la radio, donc la parole est évidemment on est tous des êtres parlants, donc vous en faites un métier. C'est très difficile, je trouve, de pas de traduire, mais de parler de son travail. Par contre, parler autour, peut-être avoir un discours flottant autour en disant moi en ce moment j'ai l'impression que j'utilise des couleurs qui n'ont pas de nom. D'habitude j'essaye de voir et nommer les couleurs. Et là, il se trouve que, par exemple, dans ces choses comme ça, là, je trouve qu'il y a des couleurs, des teintes que je ne nomme pas. C'est des couleurs, des mélanges que je fais. Je fais mes couleurs moi-même. Donc, d'habitude, j'arrive à classer plus ou moins. Et là, il y a comme un délassement du travail, la couleur mélangée au blanc, des choses qui sont superposées.
Par la brèche des nuages de l'artiste Jean-Philippe Aubanel qui expose au hangar 717 à Glézé du 10 septembre au 9 octobre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.